Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. C'est le récit d'une aventure extraterrienne. Mettons la grande voile. De Saint-Malo aux îles Britanniques, cette série est produite par Extraterrien et elle est sponsorisée par Arken, équipementier pour voiliers de référence. Bon vent et bon épisode. Ça y est, nous sommes de retour à terre. Nous sommes exactement une semaine après mon retour. Et c'est l'occasion de faire un petit bilan. Je suis rentré chez moi encore très secoué, tant par les émotions que l'on a traversées que par le mal de terre, qui a duré plusieurs jours, je ne vous le cache pas. Vous vous demandez sûrement ce qu'il s'est passé le lendemain de la tempête. Pour ne rien nous cacher, nous avons eu un peu de mal à repartir. Comme à mon habitude, je me suis levé tôt. Les autres plus chanceux sont partis pour une grasse matinée. Quentin s'est privé d'internet pour ne pas voir les résultats du dernier Grand Prix et je crois qu'il a rattrapé ça dans son lit. De mon côté, je suis allé faire un tour à la capitainerie. Lorsque le gérant m'a vu, il m'a souri et m'a dit tout de suite « Dis donc, c'est vous qui avez accosté à la voile cette nuit ? Tout le port vous a entendu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de chiasse. Bien joué les gars !» J'ai eu le sourire. Un peu de reconnaissance après une telle galère, c'est toujours bon à prendre. On s'est retrouvé à la douche. On en a profité pour faire l'inventaire de toutes nos blessures. Quentin s'est fait fouetter par les cordages toute la soirée, les couverts de bleu. Rajiv cicatrise plutôt bien ses points de suture qu'il a fait avant le départ, mais il a hâte de rentrer. On avait presque oublié qu'il s'était blessé tant il a souffert en silence. Chapeau à lui. Chanceux ou peureux, je ne sais pas, mais je suis un des seuls épargnés de bobos visibles. Nous sommes partis en fin de matinée pour ne pas arriver trop en retard. Ce que je retiens de ces 4 jours à la voile, c'est qu'on n'est jamais assez en avance. C'est bien pour ça que les Français d'ailleurs sont les champions à la voile et à la course au large. Nous avons fait notre dernier déjeuner, qui était plutôt un vide-placard ou une bouillie de reste. Et nous avons appelé le loueur, car le moteur était toujours HS. Celui-ci nous a expliqué qu'il y avait sûrement un problème de batterie. Et après quelques explications, nous avons réussi à faire redémarrer le moteur. On s'est senti un petit peu bête, je vous l'avoue. Mais bon, peu importe. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, et l'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est que cette erreur ne nous arrivera plus. Nous sommes repartis tranquillement pour les dernières heures. De mon côté, j'avais beaucoup de retard sur mes épisodes, alors j'ai demandé aux gars si cela ne les dérangeait pas, si je les montais à bord et que je les abandonnais pour le retour. Je ne vous cache pas, qu'après une journée aussi intense que celle de la veille, un petit peu de repos me convenait plutôt bien. J'ai donc profité des quelques dernières heures pour écrire, enregistrer et monter un épisode en entier. Les gars m'ont dit qu'à bord, ça ne serait pas évident et que j'aurais probablement le mal de mer. Mais surprise, il ne s'est rien passé. J'ai à peine eu le temps de monter sur le pont que nous sommes arrivés de nuit sans encombre. Au port, Hugo, un fidèle auditeur qui travaille pour la team Imoca Malaysia, nous attend. Il a commencé à écouter la série et nous suivait sur Instagram, donc nous avons pas mal papoté. Il nous a notamment expliqué son métier, celui de gérer les partenaires de la team. Et à ce moment-là, je vois Quentin, qui est chef de projet la semaine et skipper le week-end, qui a des étoiles dans les yeux. Il devait sûrement se dire qu'Hugo a un job de rêve. En me regardant, il nous parle également du métier de médiaman. Ce sont des passionnés qui embarquent avec des équipages plusieurs semaines pour créer des vidéos à bord du bateau. Ça me donne très envie. Et tiens, si c'était un futur défi. En tout cas, ça peut être une piste de reconversion pour moi. Avant de nous quitter, Hugo nous rend très fiers. Il nous fait la confidence que tous les marins de la route du Rhum sont revenus au port quand ils ont vu la tempête que nous avons traversée la veille arriver. Comme quoi, nous ne sommes pas que des marins d'eau douce. Pour terminer, nous avons tout rangé, nous avons lavé le bateau, fait un petit check, et nous sommes rentrés en voiture directement à Paris. Sur le chemin du retour, nous avons cessé de débriefer les derniers jours passés ensemble. Que dire dans les derniers épisodes? Qu'en retenir? Que vous transmettre? Les gars m'ont donné plein d'idées. Et franchement, c'était une superbe conversation que je n'ai pas enregistrée et que j'ai préféré garder pour nous, tant elle était intime et profonde. À Paris, je déprime un peu. Les premières personnes que je vois me posent énormément de questions et c'est vrai que j'ai du mal à me replonger dans cette aventure. Le monde est vraiment si différent en ville. Sur la mer, on est coupé de tout, le cerveau se débranche et on vit dans l'instant présent. J'ai tiré beaucoup d'apprentissages de cette aventure. Et j'aimerais aujourd'hui vous en faire part. La première, c'est déjà que les marins et les gens qui les entourent sont des personnes extrêmement généreuses. J'ai fait plusieurs passerelles avec d'autres milieux de passionnés, par exemple comme le trail. Notamment car ce sont des sports dans lesquels on apprend qu'en faisant et en le partageant ou en écoutant les autres. C'est encore plus exprimé dans la voile car c'est un sport un peu moins accessible. En effet, il y a beaucoup de besoins logistiques et matériels. Les marins le savent et du coup s'entraident énormément. Et lorsque j'ai parlé de ma série, je n'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me proposaient des coups de main ou me proposaient de l'aide ou me donnaient des conseils. Ça s'est retrouvé même avec mon partenaire, Arken, qui est un excellent exemple. Ils ont aimé l'histoire que je leur ai racontée, ils souhaitaient toucher des gens qui débutaient ou avaient moins d'expérience dans la voile, et au-delà du contrat qui nous liait, ils m'ont tout de suite proposé de se rencontrer et de m'aider sur le projet. Je pense aussi à Thomas et Eli Hansen qui m'ont tout de suite prêté du matériel. Mais je pense surtout à vous, tous les auditeurs qui m'avez écrit pour me conseiller des petits comprimés, me conseiller du matériel, me donner des petits conseils et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment un milieu d'entraide, un sport sincère dans lequel les gens aiment partager, aiment donner. Et une fois qu'on est rentré dans ce cercle-là, je pense qu'on fait partie d'une petite famille. Je pense sincèrement que c'est fait avec beaucoup de sincérité et que notamment dans ce sport, celles et ceux qui ne sont pas sincères ne réussissent pas. Parce qu'il faut s'entourer, c'est réellement un sport d'équipe. Et j'en viens du coup à mon second apprentissage. Je pense réellement qu'on peut se transcender pour les autres et grâce aux autres. Les trois gars, Rajiv, Jean-Jean et Quentin, auraient pu douter de moi. Ils auraient très bien pu se dire « Mais qui est ce débutant qui passe 50% de son temps avec un micro et un téléphone sur le pont ?» Ils auraient aussi pu se dire que je craquerais dans les moments durs. Et nous en avons vécu. Mais ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont toujours épaulé, ils m'ont énormément transmis de choses. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai songé à abandonner. Tellement j'avais froid, tellement j'avais mal, tellement j'étais fatigué, tellement j'avais peur. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est eux. C'est leurs mots, c'est leurs encouragements, et aussi ma volonté de ne pas les décevoir. Cet esprit d'équipe, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vécu aussi intensément. Et franchement, je vous souhaite de le vivre aussi. Je suis parti à l'aventure, et sincèrement, je l'ai trouvé. Je l'ai chatouillé, et on s'est regardé dans les yeux. Nous avons tout eu durant ce voyage. Des dauphins, des couchers de soleil, des mouillages somptueux au milieu de criques, la pêche d'un calamar, des embûches, des paysages à n'en plus compter, des étoiles filantes, des conversations uniques et profondes alors que nous étions au milieu de l'océan, et même une tempête qui m'a vraiment fait trembler. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Et avec le recul, je pense qu'il n'y a que dans l'aventure qu'on peut vivre des émotions aussi intenses et variées en si peu de temps. Alors franchement, allez-y, foncez. Trouvez des aventures qui vous font vibrer. Elles ne se passeront sûrement pas comme vous l'avez prévu. Il y aura sûrement beaucoup d'embûches, beaucoup d'imprévisibles. Il y en a encore plus dans la voile parce qu'on dépend de la météo, on dépend de beaucoup de choses. Mais peu importe l'aventure, que ce soit d'embarquer sur un voilier ou de prendre son sac à dos et de partir dans la forêt la plus proche pendant plusieurs jours, franchement, faites-le. Ça devrait être obligatoire. À l'école, avec les parents, en entreprise. D'ailleurs, ça m'a fait penser que, durant mes précédentes aventures entrepreneuriales, pour les séminaires, c'était souvent des grosses fêtes, bien alcoolisées, parfois même avec des drogues que je voyais et beaucoup de vices. Eh ben, j'ai pris une ferme décision, c'est que tout ça, c'était fini. Je ne ferai plus jamais cette erreur, même si ça peut être dans les conventions sociales de partir avec ses collègues et d'aller faire la fête. Je me suis dit que si extraterrien grossit, ou si jamais j'entreprends de nouvelles choses, et si jamais j'ai l'occasion de créer des belles équipes, je ne sais pas encore quoi, ça dépendra aussi du nombre, ça dépendra aussi des gens, de leurs envies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus drôle, et beaucoup plus fort que ces actions qu'on fait un peu par convention sociale et qui nous détruisent sans le savoir. Dans l'introduction, je vous disais également que j'avais très peur de la fatigue et de l'impact que ça allait avoir sur mon humeur. Si vous avez écouté tous les épisodes, vous savez que je me suis levé tous les jours très tôt et que ça a duré plusieurs jours après. Je me levais entre 6h30 et 7h d'un seul coup, alors que j'avais même pas besoin de réveil. Et pourtant, j'ai très bien tenu la fatigue. Je vais peut-être avoir un contre-coup sur les jours qui arrivent, mais je me sens super bien, je me sens en pleine forme. Je me sens porté par une espèce d'adrénaline qui vraiment me donne de l'énergie et me fait pousser des ailes aussi. Et je me suis surpris aussi à être d'aussi bonne humeur et toujours aussi courageux et optimiste. Un autre apprentissage que j'ai eu, c'est que la vie en communauté et encore plus sur un bateau, ça s'apprend. Effectivement, on vit ensemble, on doit se partager les tâches, on doit communiquer, on doit être proche, on doit se coordonner. On vit des moments très durs, très intenses, mais aussi très profonds. On se découvre. On peut vite être amené à se crier dessus, comme ça a été notre cas, mais il faut très vite l'oublier. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. On a eu des moments de stress, on a dû être plus tranché, plus corsé dans nos paroles, mais on s'est toujours excusé, on a toujours rebondi très vite. Et ça, je pense que c'est une vraie qualité d'être capable de passer à autre chose, de pardonner, d'excuser et de se concentrer sur un objectif qui était pour nous celui d'arriver ou de rentrer au port. En plus de ça, Jean-Jean, Rajiv et Quentin sont vraiment des hommes faciles à vivre. Et ça s'est super bien passé. Si j'ai un petit conseil à ce niveau-là, c'est peut-être ne partez pas avec n'importe qui ou essayez d'en savoir un petit peu plus sur ces personnes-là, notamment s'ils ont un peu d'expérience. Mais surtout, avant toute chose, remettez-vous toujours en question en premier. C'est toujours soi-même qu'on peut faire progresser et c'est pas toujours évident de faire progresser les autres. Une autre très belle découverte pour moi, c'est celle d'un sport mécanique qui joue vraiment avec les éléments. Il a fallu apprendre sur le vent, les marées, les horaires, les températures, et c'est extrêmement important. C'est la première fois que je me plonge dedans, et ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est vraiment l'expérience qui joue. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si dur, je pensais que ça serait plus simple, ça nous a d'ailleurs plusieurs fois joué des tours. Et surtout que ça ne se prévoit pas. Moi, dans ma petite vie citadine, je prévois des horaires, mon agenda est hyper bien calé à la minute près. Avec la météo, c'est pas du tout pareil. Ça peut varier, ça peut changer, il n'y a pas de prévision. On ne sait pas à quelle vitesse le bateau va avancer. L'exemple même, c'est que la tempête que nous avons vécue devait commencer à 22h officiellement. En réalité, le vent a commencé à souffler très fort 4 heures plus tôt, ce qui a fortement joué dans nos plans. Enfin, je me suis rendu compte à quel point créer un épisode de podcast chaque jour est épuisant. J'ai bossé en moyenne 3 heures par jour, sans compter les photos et les stories que je faisais. C'était pas toujours évident de profiter à fond et d'apprendre au maximum et passer du temps avec les garçons pour que je puisse progresser. Parce que notamment, je pensais toujours à ce que je pourrais être en train d'écrire ou ce que je pourrais être en train d'enregistrer. La création de contenu, c'est vraiment une obsession et je suis content de l'avoir vécu autrement. Pour le futur, j'aimerais vraiment revenir sur un bateau avec la tête vide et pas forcément d'obligation. J'ai aussi découvert une partie un petit peu plus obscure de moi qui était celle que je ne supportais pas ma voix. C'était extrêmement dur de monter les épisodes car je n'aimais pas du tout ma diction. Je n'aimais pas du tout le timbre que j'y mettais. Et du coup, je me suis vraiment dit que j'allais chercher à progresser. J'ai commencé des cours de théâtre il y a quelques mois et j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère que ça mettra encore plus d'énergie dans ma voix et le timbre que j'essaye d'imprimer. Mais également, tous les matins, depuis, je lis pendant 10 minutes à voix haute. Des fois, je me prends pour un homme politique, un avocat ou un présentateur télé. Mais j'essaye de reproduire des voix, des timbres, des rythmes. Et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup progresser. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu le comble du podcasteur de ne pas supporter s'écouter, mais c'était réellement dur pour moi et éprouvant de devoir monter ces épisodes parce que j'étais vraiment déçu un peu du résultat. Heureusement que tout le reste du travail me plaisait, aller chercher les musiques, enregistrer, demander à Quentin d'intervenir, leur demander leur avis, leur faire écouter, leur faire relire, essayer d'écrire une histoire, ça m'a vraiment plu. Et du coup, je pense que je continuerai et j'essaierai vraiment de progresser sur ce qui m'a déplu, à savoir moi-même. Et après réflexion, je pense qu'il y a toujours une partie de nous que l'on n'aime pas vraiment. Cette partie de nous, on essaye souvent de la cacher. Et que finalement, les gens qui l'assument et qui embrassent pleinement cette partie un peu sombre ou cette partie qu'ils apprécient moins chez eux-mêmes, ils en font une force. Notamment chez les athlètes de haut niveau, beaucoup détestent perdre et transforment cette énergie en quelque chose de positif qui va aller leur faire aller plus loin et qui va vraiment les exciter, qui va vraiment les motiver. Je vais donc voir comment je vais transformer ça pour moi-même et essayer de progresser. Pour la suite, j'ai pas mal d'idées. Effectivement, j'aimerais bien peut-être monter sur un voilier et bosser pour un skipper ou un équipage. Ça pourrait vraiment être une super opportunité de job, d'aventure. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de creuser. Je suis vraiment tombé amoureux du milieu de la voile. Je vais aussi, je pense, faire quelques stages, notamment avec la célèbre école des Glénans. Donc si jamais ça vous dit également, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et pourquoi pas la faire ensemble, ça pourrait être très chouette. Si vous avez d'autres bons plans, je suis d'ailleurs tout oui. Avec les garçons, on va sûrement reprévoir un petit départ, sûrement au mois de mai, qui sera peut-être un petit peu plus facile, et ça sera pour moi l'occasion de continuer à apprendre. J'ai également vu que sur le départ de la route du Rhum, il y avait beaucoup de médias. En écoutant les contenus, je me dis que je pourrais avoir mon rôle à jouer. Je pense que je pourrais apporter ma patte, apporter quelque chose en plus de ce qui se fait déjà habituellement. Plus humain autour des skippers ou autour de l'équipe qui accompagne justement ces skippers et qui travaille énormément dans l'ombre. Une autre chose, j'aimerais beaucoup faire une aventure peut-être en montagne, parce que c'est quand même mon premier amour. C'est quand même là un peu d'où je viens et comme ça que j'ai découvert l'aventure. Je réfléchis à un projet que je pourrais proposer en montagne, pourquoi pas une ascension comme celle du Mont Blanc ou faire un gros GR, pourquoi pas la Corse, tiens. Le GR20, ça pourrait être sympa. Si vous avez d'autres idées à me recommander ou d'autres idées à faire avec vous, ça pourrait être vraiment génial. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. J'y réfléchirai et je pense que faire 3 ou 4 projets par an comme ça, ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et si je peux le faire avec vous, bah ça aurait une saveur encore plus particulière. Bah, du coup, c'est plein d'espoir et plein de bonnes idées que je vais terminer ce podcast. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, d'avoir écouté tous ces épisodes. J'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Je suis très heureux de l'avoir fait en tout cas. J'ai eu peur de le publier parce que, comme je vous le disais, j'étais un petit peu insatisfait. Mais voilà, c'est fait. C'est dans la boîte, c'est enregistré. C'est publié. Ça restera, j'espère, pour toujours, que mes enfants pourront l'écouter aussi plus tard. Et si vous écoutez ce podcast longtemps après, eh ben sachez que je vous encourage toujours autant à partir à l'aventure. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous laisse. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.